Salut à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie et je pars à la rencontre d'artistes, de critiques ou de galeristes. Et mon but, c'est de comprendre les milieux de l'art contemporain et de les décrypter pour ceux qui voudraient y évoluer. Alors aujourd'hui, je rencontre Ségolène Thuillard, qui est performeuse et qui est sortie des Beaux-Arts de Lyon en 2014. Elle fait partie actuellement d'un collectif Vavar et je l'ai rencontrée pour la première fois en janvier pour une performance qu'elle donnait au Métallos à Paris. Et c'est une artiste protéiforme qui travaille la performance mais qui est aussi crieuse sur Paris. Et justement, bonjour Ségolène, je me posais la question de comment tu vois ton métier, parce que tu es un peu au carrefour de plusieurs choses, et j'ai parfois le sentiment que l'art contemporain est finalement très cloisonné. Est-ce que tu pourrais estimer que ton travail fait partie du monde du spectacle, par exemple?
Je me sens pas du milieu du spectacle vivant, tout simplement parce que j'ai pas du tout la même culture et la même manière de penser et d'aborder les choses. Ça veut pas dire qu'un jour je vais pas en faire. Ça veut juste dire que pour moi, je serais une artiste, peut-être plasticienne, une poète, une performeuse, enfin, tu diras ce que tu veux dans ce champ-là, qui sont mes pères, on va dire. Parce que je viens du milieu des beaux-arts, que moi, quand tu vois... C'est marrant, tes questions de la dernière fois m'ont fait réfléchir que j'ai cité quasiment que des poètes.
Ouais.
Juste Guy de Cointet qui, du coup, à la base, lui, fait en plus du graphisme. Et après, fait des performances, mais qu'on peut aussi appeler des pièces de théâtre, d'ailleurs. Mais voilà, mais que c'est pas mon milieu, en fait, le théâtre. C'est juste ça. Je pense que c'est juste dans cette réflexion-là que j'ai eue avec moi-même.
Ouais.
Donc, non, je suis pas comédienne, je tends pas directement à ça. Voilà. Pour l'instant. C'est pas, le pas, il est, la frontière, elle est très mince.
Bah, il y a peut-être cette idée de répétition, après tout. Tu vois,
je sais pas, en même temps, je répète, mais je me laisse des libertés.
Tu répètes, mais est-ce que tu fais plusieurs fois la même performance?
Ouais. Avant, j'en faisais très peu, mais oui, je la refais maintenant, mais c'est jamais exactement la même, parce que parfois je change des choses pour actualiser, en fait. C'est pas totalement figé, en fait. Et je pense que la différence, elle est la manière, oui, dont on met en place les choses, plus que la chose elle-même. Par exemple, ce que je te racontais, c'est que j'avais lu un livre, il faudra que je te retrouve le titre, mais qui était sur la performance dans le théâtre.
Mmh.
Et du coup, je l'ai acheté... Non, bah super, c'est un questionnement, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire performance? Ça vient plutôt du happening et en effet quand même du milieu de la danse et du milieu des arts plastiques, en fait.
Mmh.
Et dans les conventions du théâtre, moi je m'y retrouve pas, et c'était drôle, ce texte, en fait, me montrait que c'était quand même très très cadré. Ah là, c'est ça, c'est la scène, tu vois, c'est être sur scène, c'est plein de petites choses comme ça où je me retrouve pas. C'est pas grave s'il y a une scène et je suis dessus à un moment donné, mais c'est que pour moi, c'est pas ça qui fait la pièce, tu vois. Pas besoin d'avoir une estrade, une scène, la manière dont je porte ma voix. Donc je me sens beaucoup plus proche de la poésie sonore.
Ouais, d'accord. Bah, c'est drôle parce que hier, pendant ta performance, il y avait deux filles derrière moi qui parlaient, et puis il y en a une qui dit « Bon, bah alors toi, t'es cinéaste ?» Elle dit « Ah non, je suis pas cinéaste, je suis vidéaste. » Puis sa copine lui dit, bah, c'est quoi la différence? Mais du coup, c'est un petit peu la même, finalement, de ce que j'ai compris dans ce qu'elle racontait, que toi, entre performeuse et comédienne, en fait.
Oui.
Il y avait ce rapport de... Bon.
Ouais. De famille, et je pense que cinéaste, c'est pour faire du cinéma.
Ouais.
Et vidéaste, tu fais de la vidéo, qui n'est pas forcément pour le cinéma. Donc le cinéma, t'as des conventions aussi de format. Du moyen, du court métrage, du long métrage, et c'est un temps donné, c'est-à-dire que un film qui fait plus de 3 heures, ça se voit très peu parce que ça rentre pas dans les cases du cinéma qui est très 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 voilà. Et sinon, quand tu fais de la vidéo, ça peut être pour le web, ça peut être pour le petit écran, ça peut être pour des projections dans des centres d'art, je veux dire, ça c'est c'est pas la même chose, quoi.
Ouais, et puis il y a toujours cette idée d'expérimentation quand même vachement plus.
Un peu plus, ouais.
Ouais.
Donc c'est des familles. C'est juste en fait comme ton nom de famille en soi, ce genre de quelle famille tu viens.
Ouais.
Et souvent ça raconte une histoire.
Ouais.
Enfin moi c'était pas dans un truc de cloisonnement parce que mon prochain projet va peut-être ressembler très fort à du théâtre.
Ouais.
Parce qu'il y aura des répétitions, il y aura de la mise en scène, enfin voilà, si ça voit le jour. Mais je ne serai pas pour autant metteur en scène. La résidence que j'ai fait à Ramdam, qui est un centre d'art chorégraphique, mais qui est ouvert sur toute discipline, plutôt art vivant quand même, enfin art vivant et performance, on va dire, pour que je sois correcte avec ce que je viens de dire. Arsenic, quoi. C'est que j'ai écrit ma demande en disant je travaille avec une danseuse et je fais de la performance, mais la dernière fois je n'ai pas performé. C'est quoi ma place à ce moment-là? Parce que je suis metteur en scène, mais je connais rien dans la mise en scène en soi. Est-ce que je suis artiste? Est-ce que du coup on pourrait dire que je suis plutôt dans la... Enfin, j'ai construit tout un truc autour. Est-ce que c'est plutôt de la scéno? Ou est-ce que plutôt, comme j'écris les textes... Enfin voilà, t'as tout un auteur. Ou enfin voilà, quelle est ma place là-dedans? Et c'était ça qui était intéressant à voir. Et en fait, sur le coup, je savais pas si j'y répondais. Mais en fait, là, je me rends compte que en fait, on a la même... On reste en fait la même personne avec le même statut qu'on se donne, une sorte de périmètre un peu, on va dire,
la famille. C'est ça, ouais.
Et après, les choses viennent se coller les unes aux autres.
C'est bien plus mental que les cases administratives dans lesquelles tu es. Enfin, tu vois.
Un peu. C'est cloisonné pour les subventions.
Ouais, il y a quand même le rapport à l'argent quand même.
Parce que du coup, comme les subventions dépendent de différents. Dans la culture, il y a différentes petites zones dans lesquelles tu peux demander des subventions. Par exemple, le CNAP, qui est du coup sur les arts plastiques, diffuse plein de choses. Et puis, voilà, on voit que cette enveloppe, c'est plutôt pour ce qui est plastique. Mmh. Et tu peux avoir une enveloppe pour tout ce qui est art vivant. Et c'est là où c'est plutôt à toi de jouer avec ça, en fait. Moi, si j'habite à Lyon, mais que je fais un projet, on me dit que c'est que pour les Parisiens. Ben, du coup, j'habiterai chez mes parents, tu vois, officiellement. Enfin, voilà, il y a des... C'est juste qu'à un moment donné, sur tous les dossiers, en fait, c'est là où... je pense qu'il y a peut-être un truc, c'est qu'en voulant faire ce travail, on essaye d'être honnête avec soi. Et donc, du coup, d'être quelque peu malhonnête, c'est difficile. Si t'as le droit au moins à ton étiquette que toi t'aimes, parce qu'en fait ça fait 5 ans que tu fais des études d'art, tu sais que t'auras pas de boulot derrière, que pourtant c'est des études exigeantes,
ouais.
Que ça demande beaucoup de travail parce que en dehors de l'école, en fait c'est un truc qui te prend, toi, et puis à cet âge-là tu grandis, qu'il y a plein de choses qui vont ensemble. Et donc je pense que l'étiquette elle sert à l'artiste juste parce que en fait sinon il y a rien, sinon pour être artiste officiellement et administrativement faut vendre, sinon on n'est pas artiste.
Oui c'est ça.
Donc en fait je pense que c'est pour ça qu'il y a ce truc un peu cloisonné aussi, c'est pour dire désolé mais en fait j'ai juste mon diplôme qui me donne ça, qui m'octroie au moins une sorte de mini truc qui est déjà ridicule, on le sait tous, mais auquel on se raccroche parce que rien n'est fait. Parce que c'est quelque chose qui est censé être une sorte de, en parallèle de tout ce qui se passe. Rien n'est fait pour inclure l'artiste et lui trouver une vraie place. Et donc, du coup, ce statut, il pose question. Et donc, je pense, pour moi, de mentir, c'est difficile, tu vois. Moi, quand on me dit, bah non, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si t'es peut-être auteur aussi, t'écris. Ah oui. Ben, d'accord.
Oui.
T'as raison, en fait. Des années que je me dis que je suis pas poète. Là, j'ai dit ok.
Je crois qu'il faudrait apprendre à être moins sérieux avec tout ça, tu vois. Être plus sérieux avec la manière dont tu présentes, tu vois, comment tu installes tes œuvres ou comment tu présentes ta performance ou tu vois. Tu vois ce rapport des inspecteurs de la création, par exemple, c'est quand même hallucinant cette histoire, quoi. Qui vont estimer si toi T'as le droit d'avoir une subvention ou pas. Et en fait, au final, il n'y a que ceux qui ont les règles du jeu qui peuvent s'amuser à faire en sorte de rentrer dans les cases, en fait. Mm-hmm. Mais c'est juste un jeu, quoi. Enfin, c'est juste, voilà, t'as des règles du jeu, et puis, bah, si tu les connais, c'est cool, et puis si tu les connais pas, bah, déjà, t'as pas le diplôme, parce qu'en général, si tu les connais pas, c'est que t'as pas le diplôme. Mm-hmm. Et, donc, déjà, t'as pas ce truc-là qui fait que, bon, tu vends pas, mais t'as le diplôme.
Ouais.
Et puis en plus, t'as pas les règles du jeu, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas la manière dont faut se présenter.
Des armes, quoi.
Ouais. Et en même temps, est-ce que ça fait pas partie de la règle du jeu d'avoir le diplôme, quoi?
Bah, ça en fait, parce que pour plein de résidences, tu peux pas postuler.
Eh ouais.
Moi, ça arrive à une amie qui a fait de la photo pendant des années. Qui a pas pu avoir de résidence, postuler à des résidences qui l'intéressaient parce qu'elle n'avait pas de diplôme dans ce domaine. Et à la fois, il y en a plein qui réussissent sans diplôme. Donc, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que je pense que faut voir où le vent te mène.
Ouais, ouais.
Comment gérer le courant, hein, tout ça.
Mm.
Parce que il n'y a pas de solution. Tu vois, t'as des mecs qui sont hyper connus. Je dis hyper connus parce que, en soi, enfin, qui vendent, qui,
ouais.
Voilà. Qui ont pas fait d'école. Et puis, t'as ceux qui ont fait des écoles, mais qui réussissent pas. Enfin, voilà. Il n'y a pas de,
oui, y a pas
de manière de faire. Mais en fait, même partout, en fait. Évidemment, il y a des domaines où, à part avoir des facultés complètement, décuplées et, tu peux apprendre tout seul chez toi à parler, à lire, et enfin voilà, ça arrive pour certaines personnes, mais t'as besoin d'un minimum, mais ça c'est un... Et donc du coup, je pense que... Ouais, faut savoir ce que tu ne veux pas, je pense.
C'est comme ça que t'es arrivée à l'art, en fait.
Moi, ouais, exactement. Je suis arrivée à l'art comme ça, et finalement, mon travail, ce n'est que ça. Et au final, pareil, dans tout ce que je te dis, de la manière dont je me présente, c'est pareil, en fait. Je pense juste qu'il faut savoir où tu veux pas mettre les pieds.
Ouais.
Okay. Ce que tu veux pas sacrifier, ou tu veux pas mettre les pieds, voilà.
Je trouve ça amusant, cette idée d'être artiste par défaut, quoi. Enfin, vraiment, quand j'écrivais j'essayais de me renseigner un peu sur toi, et ça qui revenait souvent, quoi, l'art par défaut. Enfin, essayer d'arriver, de cocher, bon, bah, tu décoches, sciences éco et sociales, bon, non. Scientifique, non. Littéraire, non. Bon.
Donc oui, moi je dis que c'est une définition en creux, tu vois.
Ouais.
Pas que ça ait de ton péjoratif, parce qu'en fait souvent les gens font des métiers plus ou moins par hasard, en fait.
Ouais. Aussi. Ah bah oui. Et
parce qu'en fait on leur donne à voir certains types de métiers, puis pas d'autres. Enfin, y a plein de métiers qu'on connaît pas. Enfin. Et que t'apprends si t'es curieux, en fait. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de choses qui se permettent d'ouvrir un peu plus à différents métiers, parce qu'il y a des gamins qui seraient ravis de faire des trucs et qui seraient à fond, mais en fait, ils savent pas que ça existe.
Mmh.
Et moi, oui, c'est par défaut, ouais, j'ai voulu faire plein de trucs. Et en fait, c'est surtout parce que pour moi, être artiste, c'est être tous les métiers à la fois. Et dans la performance encore plus. Si tu veux t'amuser dans un jeu à... C'est là où c'est peut-être plus proche de métier de comédien, mais il y a un truc comme ça où si j'ai envie de faire croire que je suis scientifique et que je veux faire voilà, je peux écrire. Voilà, je le fais. Si je veux dire que je suis ébéniste, bon bah on m'a donné 2-3 clés, donc je vais me mettre dedans, puis je vais bosser avec un ébéniste, mais je vais être dans ce personnage d'ébéniste pendant un temps, enfin voilà. Et des choses comme ça, parce que à chaque projet, il faut se mettre dans la peau d'un personnage type et repenser sa manière de fonctionner.
Mmh.
Et
oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. C'est un petit peu l'artiste, ça pourrait être le... Enfin, il peut se mettre dans la peau de n'importe qui au premier niveau. Enfin,
oui, bien sûr.
En
fait, pour moi...
En fait, il évolue tout le temps sur le premier step, quoi. Enfin,
exactement, ouais, c'est ça. Et aussi parce que c'est des, enfin, moi, ce que je retiens de l'école, c'est ce qu'on, oui, c'est la seule, enfin, c'est un de mes profs qui disait ça. Les Beaux-Arts, c'est la seule école qui crée des humanistes. Donc, l'école humaniste. Mmh. Parce qu'on t'apprend à, moi, je me rappelle qu'on m'a appris à déconstruire les choses pour pouvoir les reconstruire. Mais autant, concrètement que dans la manière de réfléchir, en fait.
Ouais.
On te dit, bah, en fait, bah, si tu veux monter, apprendre à monter une table, démonte cette table. Tu vois, là, elle est là.
Ouais.
Tu la démontes. Puis après, tu vas comprendre, en fait, comment ça s'assemble. Donc, ça te paraîtra évident de pouvoir la refaire. Enfin, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai aimé aussi enfin, m'intéresser aux langues, au langage, tout ça. Et dire, bon, bah, ok. En fait, moi, je sais pas écrire. Mais j'aime bien les mots. Alors, bah, je vais les défaire et voir, aller voir une définition et voir ce qu'elle veut dire en fait. Et donc en fait, si tu regardes comme ça les mots, il y a certains trucs où tu te rends compte de ce que ça veut, essaye de te dire ou ce que ça veut dire ou ce que ça peut vouloir dire. Et voilà. Donc en gros, pour résumer, pour moi, les Beaux-Arts, c'est ouais, la seule école qui permet d'être humaniste et qui t'amène à déconstruire le monde pour saisir comment il fonctionne, ou tout au moins te questionner sur comment ça s'imbrique, ces choses, entre elles.
Mmh.
Donc c'est pour ça qu'on peut arriver à la première étape de tout, puisque chaque métier est fait pour répondre à un besoin et en lien avec d'autres métiers, et se questionne sur comment remplir une activité de la vie du quotidien, en fait.
Ouais.
Alors que l'artiste, il est là juste pour questionner toutes ces activités du quotidien.
Mais si, quelque part, si un artiste, il passe à la marge 2, quoi, à l'étape 2, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il devient artisan? Parce que, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a il y a cette idée d'exploration et d'être un petit peu toujours dans la force du débutant avec l'artiste.
Perméable,
Et ouais, perméable et plastique. Et en même temps, il y a énormément d'artistes qui ont le statut d'artiste. On revient toujours sur statut-là, qui sont des artisans en fait. Tu vois, Catalan, Kuhn, c'est des super artistes. Mais en même temps, bon, Catalan peut-être pas, mais Kuhn, par exemple,
plus, il est pas artisan.
Ouais, alors pourquoi il est pas artisan?
Mais il fait rien lui-même.
Il fait rien lui-même, ouais.
Il fait tout faire.
Donc il est industriel.
Ouais.
C'est un industriel.
Ouais.
Mais c'est un artiste industriel.
Ouais, c'est un homme. Ouais, c'est un homme d'affaires.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est un artiste. C'est un
mauvais exemple.
Homme d'affaires. Tu vois, Otto Niel, il fait pas. Il fait faire.
Mm-hmm.
Du coup. Mais c'est une vraie question.
En même temps, c'est une question et puis on qui est spécifique aux arts plastique, parce qu'on se pose pas la question d'un chef d'orchestre de savoir s'il est artiste. Il crée une œuvre et il la fait jouer par des interprètes, quoi.
Ouais, mais c'est parce que comme c'est pas appliqué, on peut pas mettre des mots dessus pour l'artiste. Donc on essaye quand même d'être très... Comme les formes sont... Il n'y a pas une œuvre d'art. Pourtant, par exemple, quelqu'un qui dit « je fabrique des bols »,
ouais.
Ça va. Tu arrives à dessiner un bol, décrire un bol.
Ouais.
Je fabrique des œuvres d'art. Tu te définis, en fait, tout simplement, pour exister, tu te définis par rapport à quelque chose. Donc, t'es obligé de faire ce truc de mettre de côté quelque chose pour en faire ressortir d'autres, en fait.
Ouais.
Enfin, le modelage, c'est pareil, en fait. Pour faire créer quelque chose, tu le sors de la terre, en fait. C'est de l'argile. Mm. Et en fait, t'as ce truc-là qui est compliqué pour les œuvres d'art, si on veut. Parce qu'elles sont peut-être moins faciles à représenter. Donc, du coup, on essaye par le titre ou par... Tu vois, il y a une sorte de truc qui est compliqué aussi.
Mm.
En fait, c'est une place qui est pour ça je dis en périphérie ou parallèle ou au-dessus ou
ouais, tout à fait.
Tu
ouais.
vois. Mmh. Et donc du coup, c'est un truc qui fait chier parce que c'est pas un métier, artiste.
Oui, pratique. C'est ça. Non mais exactement, ouais. Exactement. Alors, je prends un autre exemple, Picasso. C'est, il est beaucoup plus artisan sur plein de ses pièces, bien plus qu'artiste.
Bah, non, parce que lui, il a amené une manière de déconstruire le regard.
Ouais, ouais, mais il l'a fait, enfin, il a une production incroyable, quoi.
Ouais, mais l'artisan,
moi, je le vois vraiment dans le sens où...
C'est, dans le sens, c'est toi qui vas venir me dire, justement, c'est potentiellement l'artiste qui va venir me dire, ou le designer qui nous, je sais pas, qui va venir dire, bah, en fait, j'aimerais, que tu fasses, là, les trucs que tu sais bien faire, tes bols, là, comme ça, ou tes, tu vois, tes sculptures.
Ouais.
Tu sais, Pablo, j'aime bien ces têtes de femmes comme ça, là. Bon. Mais moi, je préférerais jaune. Et puis, je voudrais que ce soit comme ça. Et puis, en fait, je voudrais que ça soit un bidet, finalement, tu vois, parce que je m'en fous que ça soit une sculpture. Et du coup, tu fais un objet pour quelqu'un, tu vois. C'est, tu mets ton savoir-faire, au service des gens, en échange de l'argent.
Ah oui, pour les artisans qui travaillent sur commande, mais il y a quand même pas mal d'artisans. Moi, l'artisan par exemple,
d'art.
Ouais, l'artisan
mais du
d'art,
coup,
ouais.
Voilà. Enfin, l'artisan d'art, ça...
On revient à,
oui,
à créer une nouvelle catégorie entre les deux, quoi.
C'est ça. Non, bah, en tout cas, pour l'artisan, c'est un apport de savoir-faire. Et de commande aussi, je pense.
Et de commande. D'accord.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter un échec que tu aurais pu avoir, qui t'a permis d'avancer dans ta carrière artistique?
C'est pas vraiment le seul truc que je me suis dit, moi. C'est pas vraiment un échec.
Mais vas-y, c'est pas...
C'est que j'ai grandi à Paris. Pour moi, je voulais faire les Beaux-Arts de Paris.
Ah ouais.
En grandissant à Paris. C'est ce truc-là. Puis ça avait l'air le plus prestigieux. Puis finalement, j'ai pas présenté le concours.
Ah ouais?
De Paris. Le seul concours où je me suis inscrite en région parisienne, c'est Cergy, qui était le même jour que Lyon. Oui, non, c'était le matin à Cergy. Et l'après-midi, je prenais mon train pour Lyon pour avoir mes examens le mardi à Lyon. Et en fait, ça m'a stressée d'avoir deux trucs dans la même journée. Du coup, je suis pas allée à Cergy. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait le choix de partir de Paris. Sans le vouloir. Enfin, comme ça, de manière inconsciente. Et du coup, et donc ça m'a fait beaucoup avancer parce que, au final, j'aurais dû rester à Paris. Et je serais certainement devenue une personne beaucoup moins ouverte.
Ah oui?
Ouais. Mais bien sûr, hein, tout te fait croire à Paris qu'il y a tout à Paris et que, voilà, c'est une grande ville. Tu veux aller au théâtre, il y a des théâtres. Tu veux aller voir des expos, il y a des expos. Enfin, en gros, voilà, tu veux une école d'art, elle est là. Et dans l'école d'art, t'as besoin de quoi? Bah, de super, endroits, c'est, oui, c'est assez beau, les Beaux-Arts de Paris, c'est spacieux, il y a des bons profs, il y a donc des centres d'art, des super endroits pour aller acheter les meilleurs pastels du monde et les trucs, enfin, bon, en fait,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Et en même temps, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait de ma vie de décider de partir.
Ouais.
Parce que c'est la curiosité, c'est justement la rencontre de différentes personne et puis le pas sans tout penser centralisé quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est
donc c'est pas un échec. Vraiment,
moi je connais pas ça parce que j'ai grandi en campagne donc pour moi tout est dans Lyon quoi donc pour moi tout est
oui, tout est intéressant.
Tout est plus tout est plus
mais
intéressant.
Grandir à Paris alors avec ce truc de dire que tout le monde te dit que Paris c'est un peu le centre le nerf de la guerre. Les gens montent à Paris pour travailler. Enfin, il y a un truc comme ça. Tu saisis pas trop pourquoi tu... C'est vrai, hein, pourquoi tu partirais, tu vois.
Ouais. Ouais.
Et en fait, j'étais très contente d'aller à Lyon. Découvrir un autre rythme de vie. De découvrir une autre manière de...
Ah ouais, tu l'as vraiment senti comme ça enfin, t'as senti un autre rythme de vie?
Ah ouais, mais énorme. Ouais. Énorme. Ouais, ouais. Bah, à Lyon, tu peux quasiment tout faire. Enfin, tu fais une bonne partie. Moi, j'habitais dans un... En fait, j'habitais dans un quartier village, la Croix-Rousse. Du coup,
oui, forcément, oui.
Je faisais quasiment tout à pied, même aller à l'école. Et en même temps, c'était une grande ville. Il y avait un marché de producteurs et abordable.
Ouais.
Le dimanche soir, du coup, c'est le dimanche soir, hein, c'est très calme. Et donc, il y a un rythme beaucoup plus fort. et ça fait du bien en fait. La nature est un peu plus proche aussi.
Et ouais, ouais.
Et puis ouais, c'est le même principe que de sortir chez soi en vrai. Sauf qu'en plus quand tu chez toi c'est la plus grande ville de ton pays.
Mais... Et justement par rapport aux Beaux-Arts de Lyon, est-ce que tu les as choisis parce que à cause de la ville ou est-ce que t'as regardé quand t'as choisi tes Beaux-Arts, est-ce que t'as regardé un peu l'obédience de la des Beaux-Arts quoi, dans quoi ils sont plutôt spécialisés?
Alors, la vraie anecdote, c'est que il y a cette histoire de Beaux-Arts de Paris que j'ai pas fait parce que j'étais pas prête quand il y avait le moment où je vais le j'étais en, dans une prépa à Paris. Et le moment où on me dit faut rendre le dossier, j'avais quand même pas du tout le dossier. Vraiment, j'étais à la ramasse. Et donc on m'a dit bon, t'avais prévu quoi d'autre? J'ai dit Nantes, les Arts Déco de Strasbourg. Les Arts Déco de Paris, même si je veux pas y aller, mais en fait, pour tenter, parce que oui, je savais que j'avais, voilà, je l'ai fait pour plutôt me motiver, parce que mon école était préparée pas mal, enfin la prépa préparait pas mal aux Arts Déco de Paris, plutôt par challenge. Mais je savais que j'irais pas. Donc voilà, et on m'a dit tu devrais aussi penser à Lyon, c'est une super école. Et les dossiers se rendent plus tard. Si les dossiers avaient été rendus plus tard à Paris, peut-être que du coup j'aurais fait les Beaux-Arts de Paris et pas Lyon, mais voilà. Et donc voilà. Donc c'est mes profs de prépa qui m'ont dit de postuler à Lyon. Et du coup, pourquoi après j'ai choisi Lyon? J'ai eu Nantes et Lyon.
Ah, t'as eu Nantes quand même? Enfin quand même. C'est une belle ville aussi.
Ouais, très belle ville. Et en fait, ça s'est pas joué à grand-chose. J'ai pas aimé le truc ridicule, hein, mais à Lyon, j'ai été hébergée par un ami avec qui j'ai passé du coup le week-end. Il m'a fait rencontrer ses amis. Voilà, enfin, une ambiance et tout. L'école des Beaux-Arts de Lyon venait de changer de lieu, donc c'était très beau, très grand, des grands ateliers, de la place. Voilà, un espace dans lequel tu te dis que tu serais sacrément chanceuse d'y être. Et agréable en fait, c'est un lieu agréable. À Nantes, j'étais dans un tout petit hôtel que voilà, j'avais rencontré des gens que je trouvais aigris.
Ah oui, d'accord.
On m'expliquait que les 1 et 2 en année étaient et 3 étaient genre séparés des 4 et 5 parce que c'était des bâtiments différents. J'avais fait le tour des ateliers des deuxièmes années, en fait c'était 40 mètres carrés qu'il fallait partager à 30. J'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Et tout un truc comme ça où je suis arrivée, je dis ah il fait beau, bah non mais alors t'y fies pas, hein, il fait beau que pendant les concours.
Bon bah super les gars.
Et en fait on m'a pas du tout bien vendu, non, tu vois. Genre, ouais, et donc tout. Et même mon entretien avec la prof qui était aussi donc artiste était difficile et donc j'ai pas trop aimé.
Ouais, t'as pas accroché quoi.
Non,
il faut faire des choix.
Mais tu vois, c'était pas grand chose.
Ouais, je vois bien.
Je me suis sentie pas à l'aise dans la ville et voilà, et donc quand j'ai eu les deux, j'ai dit bah Lyon évidemment. Donc voilà, tu vois, comme quoi c'est plutôt des sortes de hasards, de petites anecdotes comme ça. Mais
ouais. Enfin, en même temps ça se passe, enfin c'est toujours avec les anecdotes quoi. On fait le plus de choix.
Ouais, c'est ça. Et sur le rapport d'échec, c'est que ça m'a pas appris grand chose, mais j'ai dû postuler à, je sais même plus, je dirais au moins 200 résidences, ou 100 appels à projets, 200, je sais pas.
Auquel t'as répondu?
En 6 ans, ouais. T'en fais.
200, t'en as fait 200 en 6 ans.
Je pense, ça va aller vite, ou 100, ouais, ça va pas, vite, ça va hyper vite.
Non, et sur les 200, t'en as eu combien?
Peut-être que j'en ai fait 100, allez, on va dire 100.
Ouais, 100, allez. Chiffre rond.
J'en ai eu du coup 3, ouais. Et en fait,
t'en as eu 3 sur les 100.
Ouais,
mais tu dois être super calé en création de dossiers et de projets.
Non, même pas 3 du coup. C'est un réellement et les deux autres c'est pas parce que j'ai fait des dossiers. J'ai eu des résidences mais c'était pas par dossier. Donc
c'est par réseau.
Ouais. Donc 1 sur 100 on va dire.
Donc il y a plus de réseaux que de
que
de projets. Moi, c'est hyper important.
Oui, moi toujours. Mais il y a des gens qui réussissent trop bien les dossiers, mais moi je suis pas trop. Enfin en fait je suis quelqu'un de avec qui il faut parler. Donc mon dossier, il est un peu creux, quoi. Si, si ouais. tu vois que du texte, des photos de performance, tu te fais un peu chier, enfin, c'est normal. Ouais. Après, il y a des choses qui sont... Je ne renie pas totalement ma documentation, elle est intéressante, mais ça demande du temps. Ça, en fait, c'est ce que tu... Enfin, tu me posais la question la dernière fois sur le rapport processuel. C'est ça aussi, en fait.
Ouais.
Tu ne peux pas regarder une œuvre. En général, elle est reliée à une autre chose. Et donc, du coup, bah, c'est... un truc que tu prends comme une histoire, quoi. Dans un bouquin, tu vas pas lire juste un extrait, quoi. Mmh. Tu lis le bouquin en entier, sinon tu comprends rien, ouais. tu vois. Et le problème, c'est que tu passes, il passe même pas une minute par dossier.
Ouais, donc ton boulot, quelque part, c'est difficile de faire la différence en impact visuel en une minute, quoi.
Exactement. Ouais. Mmh. Et donc, du coup.
Parce qu'il y a le temps qui est hyper important aussi dans
mais
ton boulot.
Totalement. Ouais. Et du coup, par exemple, j'ai fait une note orale une fois pour un dossier. Je me suis dit, bon, bah voilà, mon travail, c'est l'oralité, j'y vais et tout. Et une de mes amies qui travaille dans un musée m'a dit, mais en fait, j'ai été amenée là pour un projet à regarder à présélectionner des dossiers pour mon supérieur. Clairement, j'en avais 400, j'avais une demi-journée. Bah, tu vas à l'essentiel, quoi. Et donc, t'écoutes pas une note, parce que la lettre d'intention, tu peux la regarder en biais. Comme ça, la note orale, non, tu vois. Ça rentre pas dans les cadres, c'est des gens qui sont dans l'administration, en fait. C'est pas des gens qui sont dans l'art.
Ouais.
Et donc, du coup, bah, il faut leur parler avec leur... Et donc, pour un dossier pour la mairie de Paris, c'était quoi? Oui, c'était pour un projet mairie de Paris, ou subvention, je sais plus quoi, bref. Pareil, on m'a dit, mais non, on va pas faire de phrases, c'est des mots-clés. Mais donc, un dossier en ligne, mots-clés. Ah ouais.
Tu
du hashtag en fait. C'était déjà du hashtag.
Ah mais c'est super ça.
Tu fais 2-3 phrases sur un truc au début, mais sinon c'est que des mots clés parce que t'as 120 caractères pour expliquer un projet qui vaut. Parce que c'était pour des gros trucs, c'est des VVV, c'est de l'argent qui est débloqué pour un truc. VVV c'est genre vacances, ville, vacances, je sais plus quoi, mais en gros c'est les quartiers prioritaires. Il y a du coup des subventions pour créer des activités artistiques pour les jeunes. Et donc, qui partent en vacances.
Ouais.
Et donc, du coup, moi, je l'avais fait en faisant, voilà, c'était pour le crieur public, je suis crieur public, propose ça, on va dire, ah non, crieur public, intervention en ville, projet avec les habitants, tu vois, genre, mots-clés.
Ah, c'est incroyable, ça.
Donc, tu te rends compte, en fait, que un dossier, il faudrait juste payer une fois quelqu'un pour te faire un dossier.
Ouais.
Et après,
ouais, ça vaudrait le ça coup de payer quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui fabrique des dossiers?
Je connais quelqu'un. Bah, quand tu fais des formations clairement projet culturel, c'est ça. Hein. Te forme à faire des dossiers, des demandes de subventions. Enfin, tu vois bien. En fait, dans les centres d'art, ils sont obligés de faire leurs demandes de subventions. C'est le boulot d'une nana.
C'est un vrai casse-tête, ouais.
C'est le boulot d'une nana, donc voilà. Non, moi j'ai la chance d'avoir 2-3 personnes qui relisent mes dossiers, mais ça ne... Tu vois, maintenant, avant je le faisais pas, maintenant j'envoie un mail pour demander pourquoi j'ai pas été prise.
Ouais, et t'as des réponses?
Et quasiment tout le temps, maintenant j'ai des réponses. Plus ou moins étayées, hein.
Ouais.
Mais t'as des réponses... J'en ai une qui était... C'était il y a quelques années, mais qui était hyper intéressante, qui me dit, en fait, le projet, il est super, mais ça répond pas exactement à ce que nous, on cherche. C'était un projet sur... faire une exposition... sur ce qu'est une exposition. Alors, le montage, tout ça. Donc, moi, j'avais proposé plutôt d'être dans la métaphore du montage d'expo en disant, enfin, voilà, il y a toute une logique où on met en place des choses et c'était un casse-tête chinois en échelle humaine, on va dire. Et du coup, une fois qu'on avait mis tout le casse-tête, c'était là, puis après, il n'y a plus rien à voir, en fait. Enfin, tu sais, limite, pour les gens qui font l'expo, c'est ça, tu vois. Genre, t'as 2 mois de préparation, et puis en 2 jours, c'est fini, tu vois.
Ouais.
Et il m'avait dit, non, mais le projet est super, du casse-tête, où on amène une pièce chaque semaine, et à chaque moment où on amène une pièce, il y a une performance. Enfin, c'était ça, l'idée. Mais on a préféré quelque chose où vraiment, on est sur le truc beaucoup plus... simple de qu'est-ce que c'est une exposition, que c'était une nana qui avait fait des post-it, qui avait vraiment agencé des questions genre comment on gère ça, comment on gère ça, comment on gère ça, et puis elle y répondait par des performances, par des objets, tu vois, enfin des... Elle utilisait du papier bulle, enfin tu sais, j'ai plus exactement, j'ai des conneries, mais tu vois.
Donc il y a ça aussi, ne pas répondre exactement à l'attente qu'ils ont, ne pas rentrer dans le format aussi, parce que ils ont fait tout un cycle de performance avant et que maintenant ils ont plutôt envie de la sculpture, tu vois, mais ils peuvent pas le mettre parce que voilà. Il y a ça. Il y a ceux aussi où clairement le dossier, le projet était déjà pour quelqu'un, mais l'appel à projet existe.
Oui, oui, et, et obligé de, d'être mis en place. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est clair que c'est, et puis c'est pas si peu fréquent. Hein.
Ouais.
Et... Mais après, du coup, ça, on passe par le réseau, quoi.
On passe par le réseau, exactement. Et où ton dossier a intérêt. Il y a l'autre manière du réseau, c'est où c'est pas décidé que ça soit quelqu'un, mais clairement, on te dit que ton travail correspond en fait à ce qu'on cherche. Donc, s'il y a pas quelqu'un qui est encore plus pertinent que toi dans ce qu'il recherche, ça sera toi. Donc, c'est pas. Donc c'est là où tu te dis bon voilà, faut que ton travail soit quand même bien, mais en effet tu sais que tu perds moins de temps à faire cet appel à projet qu'un autre.
Ouais.
T'as ça et donc cibler en fait énormément. Parce que moi pendant des années déjà je savais pas ce que je faisais au début.
Oui.
Voilà, donc il y a au moins 40 dossiers que j'ai fait où je sais pas, heureusement que j'ai pas été prise limite.
Ouais. Ouais, ça met du temps à définir. Bah, c'est, en fait ce que tu c'est... Fais, c'est dur, quoi. Ouais, c'est expliqué et puis il y a. Enfin, il y a quand même ce côté. Enfin, moi, j'ai ressenti ça quand même de se spécialiser, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, il y a un truc où on a l'impression que qu'on se coupe des opportunités en se spécialisant dans son travail, alors que bon, à 30 ans, à un moment donné, dire tu peux déjà pas faire tous les projets que t'as déjà mis en place, quoi.
Ouais, il y a de ça. Donc il y a de ça et cibler l'attente du moment aussi, hein, parce que mine de rien voilà, il y a eu le centenaire de 14-18, il y a énormément de projets qui étaient axés sur la guerre, sur les poilus, enfin tu vois, il y avait tout ça, parce que les subventions elles arrivent avec estampillées, quoi.
Et ouais.
Donc en fait, c'est même pas le centre d'art, parfois, c'est...
Ah, des fois, faut chercher les... Faut aller chercher du côté des dates clés, ouais.
Non, mais vraiment, 68, il n'y en avait que ça. C'était, du coup, en 2018, c'était ça. Ouais. C'était insurrection, la nuit blanche de Bruxelles, c'était ça. C'était projet sur l'insurrection et tout ça. Donc c'est aussi ça, en fait, c'est que parfois, tu réponds à un truc que tu n'avais pas vu venir, et parfois, non. Donc, il y a ce truc aussi qui est complexe.
Ouais.
De mode, de vague et de, voilà, de centenaire, de choses où on est plus axé sur des choses que d'autres. Voilà, le poème, ouais, la poésie revient peut-être encore un peu maintenant.
Il faut attendre le centenaire de la mort d'un poète.
Ouais, voilà. Non, mais en fait, c'est ça aussi, tu vois. C'est que, c'est dans tout, en fait. Dans le milieu de la mode aussi, tu vois, t'as des, voilà. C'est ce truc-là. Si pendant 40 ans, tu mets un pas de def, il y a une période, c'est ringard, une période, c'est rien, et une autre période, c'est hyper cool, tu vois.
Ouais.
Moi, quand j'avais 11 ans, ouais, 10-11 ans, je mettais les petits colliers tatou, là.
Ah oui, oui.
Voilà. Maintenant, elles ont 18 ans, des talons, puis du rouge à lèvres, quoi. Les filles qui mettent ça. Ou 20 ans.
Ouais.
Je suis pas beaucoup plus vieille en ça, mais ça me choque, en fait. Pour moi, c'est pas
un truc de
jeune femme,
quoi.
De jeune femme, ouais. Voilà. Et c'est ça, en fait, tu vois, ce truc de mode. Mais il y a ça aussi dans l'art.
Ouais, bien sûr, ouais. Ah oui.
Donc
tout c'est ça... même.
Voilà. Oui, très... Et donc tout ça mis les uns à la suite des autres, ça fait que parfois tu réponds pas, en fait, tu vois, pas de grand chose. C'est pas que c'est pas bien ton travail, c'est que ça répond pas à la demande.
Ouais, ouais.
C'est ça aussi.
Et ouais, ça me plaît ça.
Parfois c'est 10 ans trop tôt, parfois c'est 10 ans trop tard, et parfois ça tombe à pic, quoi. Et moi, tu sais, ça fait 2 ans que je fais ce travail-là. Et en même temps, parce que ça fait 2 ans que je fais vraiment ce truc-là sur la question du travail, de la paresse et tout. Et en fait, là, c'est plus que... J'ai l'impression que c'est le moment qui pose vraiment question, parce qu'on est dans un rapport de crise existentielle du monde, quoi.
T'es à fond dans les gilets jaunes, là.
Voilà. Il y a un peu de ça, tu vois. Il y a ce questionnement-là, et donc ça touche plus les gens, parce qu'en fait, on appuie dessus en ce moment, tu vois. Et c'est... Voilà. Et c'est parfois, tu vois, pour un truc auquel t'es pas du tout... tu peux rien.
Bon, et tu bosses sur quoi là? Pour finir un petit peu, c'est quoi tes prochains projets?
Alors, du coup, là, j'ai fini ma dernière édition, qui sont des sérigraphies de logos que j'ai créés autour des Pôle emploi. Et des formulaires. Donc, j'ai créé une dizaine de formulaires en 2 ans. Donc, ce sont des formulaires détournés et tout, que j'ai repris au crayon à papier. Et j'ai scanné ces dessins en crayon papier et je les réimprime sur du calque. Du coup, ça crée une édition où à chaque fois, tu as le logo qui est lié à le lieu de la performance, plus les formulaires qui ont été créés pour cette performance. C'est une sorte de manière de conclure ce temps-là.
Ouais.
Toujours autour de ces bâtiments, je pars à l'appel à témoignage pour questionner les gens de comment on habite un espace là qui est le Pôle emploi et qu'est-ce qu'on projette dessus. C'est-à-dire que moi, de toutes ces années, du coup, pour moi, c'est un bâtiment Pôle emploi.
Hein. Ouais.
Mais pour d'autres, c'est un bâtiment de France classé. Pour certains, c'est leur lieu de travail. Parce qu'ils cherchent c'est leur travail de chercher du travail pour des gens. Puis d'autres, c'est de laver les vitres, faire en sorte d'agencer l'espace pour que ces demandeurs d'emploi puissent arriver dans un espace propre. D'autres, c'est de réparer l'ascenseur. Enfin voilà. Et donc chacun, c'est une fourmilière en fait, et c'est un bâtiment dans lequel plein de corps de métiers se rencontrent.
Ouais.
Enfin se rencontrent. Non, se croisent sans vraiment se rencontrer.
Ouais, chacun. Monte un petit peu l'image du bâtiment grâce à leur fonction, à la fonction qu'ils représentent plus
exactement. Ouais. Enfin, en fait, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on projette sur les choses. Donc, qu'est-ce qu'on projette sur des bâtiments? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est une manière de dire qu'on ne voit que de son point de vue. Et que là, l'idée étant d'aller rencontrer, du coup, potentiellement l'architecte du bâtiment, si c'est possible. D'aller peut-être discuter avec la directrice du lieu, avec les gens qui passent devant, enfin voilà, parce que pour certains aussi ça peut être un point de rendez-vous, tu sais pas pourquoi, parce que c'est devant une place et c'est où ce bâtiment a une forme particulière. Et souvent ça crée comme ça, t'arrives à comprendre, c'est un truc assez, enfin un peu sociologique, tu vois, de comprendre comment il y a un maillage et comment ça les choses se greffent autour d'un espace, voilà, et en vue de créer, donc d'écrire un texte autour de ça.
Ok.
Et de le faire interpréter, mais je sais pas encore comment, par qui.
Ouais. Et c'est ça que tu parlais de peut-être mettre en scène?
Ouais, exactement. C'est que je pense que c'est intéressant. Avant, je voulais juste inviter ces gens à venir témoigner sur des espaces qui seraient des tapis qui reprennent les logos, en fait, que j'ai créés. Je trouvais ça très beau et très intéressant, mais concrètement, complexe. À faire, puisque du coup c'est dans toute la France, donc voilà, ça implique des déplacements, tout ça. Un travail très difficile, puisque ça veut dire travailler vraiment quand même la manière de parler, de s'exprimer avec des gens qui n'ont pas forcément le temps, enfin voilà. Donc je pense que récolter leurs paroles et refaire un travail d'écriture, il y a une très belle poésie qui peut se faire, il y a des mises en regard de certains témoignages qui peuvent être très beaux, que j'aurais pas juste en faisant intervenir quelqu'un, et justement j'aurais peut-être plus de place aussi en réécrivant et en me servant de ça pour créer quelque chose qui nous transporte et nous questionne d'un point de vue à un autre, pour créer comme si à 10 on devait décrire un même bâtiment, je suis pas sûre qu'on décrirait pareil. C'est cette question là. Et comment on habite un territoire et comment on le donne à voir, finalement.
Bah super.
Ouais.
On va terminer là-dessus.
Ouais.
Salut Ségolène.
Merci.